Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Capi Service. Quel est l'impact de la dégradation de l'environnement sur la santé de la population congolaise? Nous en parlons dans cette seconde partie du magazine Okapi Service avec la professeure Céline Sikoulissimoi. Elle est coordonnatrice de la Task Force sur la santé et l'environnement, une entité du ministère de la Santé publique. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati et bonjour à tous les auditeurs.
Chers auditeurs, auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos questions, commentaires, propositions et suggestions au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces rendez-vous sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Pierre Diassino est à la prise des sons. Naomi Mouto qui réalise ces rendez-vous et Jonathan Chimanga s'occupe pour sa part de l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une bonne condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Radio Okapi, Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. La mauvaise gestion des déchets ménagers et industriels, l'absence de systèmes d'assainissement adéquats entraîne la contamination des sources d'eau potable et la prolifération des vecteurs de maladies à Kinshasa, à Lubumbashi et dans d'autres villes de la République démocratique du Congo. À ces facteurs s'ajoutent les émissions provenant des véhicules généralement d'occasion en circulation, surtout dans les grandes villes, des industries et des brûlages des déchets en cette période du changement climatique favorisant l'éclosion de diverses maladies chez les populations, la population congolaise avec une incidence négative sur l'espérance de vie. Quel est l'impact de la dégradation de l'environnement sur la santé de la population congolaise et quelles sont les solutions envisagées pour faire face à ces fléaux contemporains? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Et si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Professeur Céline Sikoulissimoi, vous partagez ces constats bien qu'alarmants.
Bien sûr, non seulement je partage, mais je voudrais ajouter aussi certains points peut-être qui n'ont pas été relevés.
Évoqué.
Vous avez parlé de la qualité de l'eau, ça c'est déjà un élément de taille, mais il faut aussi ajouter d'autres facteurs qui viennent, je peux dire, interférer avec ce qui existe déjà dans les milieux. Nous avons la qualité de l'air qui pose aussi de sérieux problèmes parce que vous ne voyez que les embouteillages, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de pratiques non conformes qui sont identifiées dans beaucoup de villes, particulièrement ici à Kinshasa. Mais aussi d'autres, comment je peux appeler ça, des pratiques des populations avec énormément de phénomènes sociaux que nous avons trouvés sur le terrain. Je prends le cas des toilettes automatiques. Je prends le cas des phénomènes Munduki. Nous avons identifié des Souberi, des Nyeteri.
Des rivières qui ne fonctionnent presque plus.
Il y a des rivières qui sont devenues des rivières décharge. Nous avons autant de problèmes si on voit ce qui se passe, il y a de quoi se poser la question où est-ce qu'on va avec tout ça.
Et c'est dû principalement à l'activité de l'homme. C'est l'homme qui est à la base de toutes les mauvaises pratiques qui nuisent à l'environnement.
Tout à fait. L'homme est à la base, bien sûr. C'est l'homme qui est au centre de toute cette dégradation environnementale. Mais à côté de ça, il faut signaler aussi que toute une société s'organise à travers les lois, à travers la mise en place des règlements et des normes. Mais ce qui fait des fois un tout petit peu aussi de ce côté-là, c'est que on peut noter une absence criante de normes. Je prends le cas des normes des rejets. Vous avez parlé des industries, par exemple.
Qui n'ont pas des stations d'épuration, par exemple, de l'air du
Voilà,
chien.
Ça, ce sont les infrastructures qui font défaut. Mais il faut citer quelques industries qui possèdent des stations d'épuration des eaux usées, ce qui n'est pas le cas pour les gens, pour tout ce qui reste. Donc nous sommes dans une situation où lorsqu'on brosse on fait le diagnostic de la situation environnementale d'une manière générale, effectivement c'est alarmant. Lorsqu'on doit combiner les différents compartiments de l'environnement, je prends l'air, je prends l'eau, je prends le sol, j'y ajoute les facteurs climatiques et énergétiques. Et donc, il y a de quoi que l'espérance de vie soit réduite et que ça impacte aussi énormément sur la mortalité. Parce qu'il a été démontré que une grande partie des maladies, des décès sont dus à la qualité de l'air que nous respirons. Donc, l'OMS elle-même a présenté des résultats comme quoi il y a énormément de gens, autour de 3700 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de la qualité de l'air intérieur. Et puis, l'air extérieur vient ajouter aussi sa part à l'échiquier. Donc, ici, chez nous, qu'on soit en milieu urbain, en milieu rural, il y a d'autres phénomènes là-bas, il y a autre chose là de l'autre côté. C'est beaucoup plus l'absence de l'énergie. Quand on se retrouve avec une population qui n'a pas vraiment accès à l'énergie, ou la seule énergie, je peux dire l'énergie propre, la seule énergie, c'est la dendroénergie, c'est-à-dire l'énergie bois. Je pense qu'il y a aussi d'autres conséquences qui proviennent de ce côté, dans la mesure où, pour pouvoir avoir accès à l'énergie, on doit déforester, on coupe le bois pour faire le charbon de bois. Et la production de ce charbon de bois a aussi des incidences sur la qualité de l'air, avec tout ce qu'on a comme gaz à effet de serre. Et donc, c'est pratiquement un engrenage, tout un système qu'il faut revisiter.
Avec une incidence, une corrélation sur la santé humaine également.
Effectivement. La santé humaine, parce que c'est l'homme qui est au centre, non seulement il dégrade l'environnement, mais les effets boomerang reviennent sur lui-même. Au niveau de la santé, effectivement, quand on voit ce qui se passe avec, je prends un cas simple, nous avons les déchets électroniques, les déchets d'électrique qui proviennent de tout ce qui est matériaux électriques, les déchets informatiques. Nous sommes ici dans une salle où tout est bourré de technologies. Mais la question qu'on ne se pose pas, c'est que juste après avoir utilisé ça, eh bien, qu'est-ce que ça devient? Voilà. Mmh. Et comme nous n'avons pas des structures
Dans le secteur minier, pareil.
Oui. Mmh. C'est quasiment dans tout le domaine. Vous avez parlé des déchets domestiques. C'est pareil, des déchets industriels. Mais il y a également les déchets urbains. Les déchets que l'on retrouve sur les places publiques. En principe, tout ça constitue tout un programme de gestion, tout un programme d'assainissement. Mais nous constatons quand même qu'il y a différents programmes, mais peut-être que les résultats ne suivent pas. Alors.
Et il y a 4 mois, et au mois d'avril dernier, la task force sur la santé et l'environnement a été mise en place. On peut avoir une idée sur les attributions de ces groupes de travail?
Merci beaucoup. Nous remercions et saluons cette initiative de son Excellence le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention sociale, Dr. Roger Kamba, qui a mis en place, Samuel Roger Kamba, je veux dire, a mis en place la task force sur la santé et l'environnement à l'issue d'un état des lieux, à l'issue d'un diagnostic et présentation des évidences que certains peuvent appeler preuves que nous avons apporté à sa connaissance. Nous avons porté à sa connaissance toutes ces preuves en établissant la relation inextricable, bien entendu, entre ce qui se passe dans l'environnement et la santé, parce que parmi nos collègues, Il y en a qui ont aussi trouvé des agents qui peuvent être ou qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Donc il a fallu qu'on puisse y travailler et il a constitué un groupe d'experts qui peuvent réfléchir sous son leadership à apporter des solutions que nous pouvons apporter, à apporter des solutions à ces problèmes-là, essayer dans la mesure du possible de relever les défis qui sont les nôtres. Parce que c'est faisable.
Et
sous d'autres cieux, cela se fait. Ça se fait, ça continue à se faire. Pourquoi pas ici chez nous? Parce que nous sommes des experts, des scientifiques, multidisciplinaires. Donc, nous ne sommes pas constitués que d'une seule équipe, par exemple, ou d'un seul domaine. Nous avons mis en place de groupes de travail qui permettent d'identifier les différents indicateurs qui ont été mentionné au rouge par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce sont ces sur base de ces indicateurs-là que nous essayons de voir. À partir des diagnostics que nous avons réalisés, nous voulons à notre tour apporter pour chaque cas de manière spécifique, tout en réfléchissant sur un schéma critique qui peut nous permettre d'apporter ou d'arriver à la solution, parce que les solutions existent. Les solutions existent, c'est tout simplement question de pouvoir réfléchir sur ça. Identifier le problème, identifier les solutions, mettre les moyens et apporter effectivement des réponses claires mais aussi satisfaisantes de manière à aider notre pays à atteindre ou à permettre aux citoyens congolais, citoyens lambda, de pouvoir espérer encore 20 ans de vie supplémentaire en 10 ans. Hein, donc, on va y aller par pas de 2 ans, par 2 ans de récupération, 2 ans de vie chaque année. Et c'est tout un travail qui fait intervenir plusieurs autres compartiments. Je prends le cas du compartiment économique. Donc, l'espérance de vie n'est pas que l'apanage du secteur de la santé. La santé est un des éléments clés parce qu'au-delà de l'espérance, du compartiment économique à travers le produit intérieur brut, il faut noter qu'il faut effectivement que le système de santé soit mis en place.
Et amélioré et perfectionné.
Oui, on a mis en place la couverture santé universelle. Et cette couverture santé universelle est en train d'aller petit à petit vers l'amélioration de la qualité de soins, de l'accès aux soins, l'amélioration du système de santé lui-même dans son ensemble. Mais si nous ne tirons pas attention sur les effets de liés aux compartiments environnementaux, je pense que les efforts risquent d'être engloutis.
Il y a aussi la dimension, professeur, d'implication de la population à cette démarche.
L'implication, j'ai commencé par parler des phénomènes sociaux, donc à travers les différents phénomènes sociaux identifiés, c'est l'homme qui est à la base de tout ceci. Et dans ce cadre-là, il y a effectivement moyen d'organiser un programme en synergie. Il ne suffit pas d'aller vers un seul point, je peux dire un seul axe ou un seul domaine pour pouvoir résoudre le problème. Il faut une synergie d'action. Pendant que l'on intervient sur le point A, il faut que le point C aussi, quelque chose soit déjà fait. Une synergie d'action qui permet d'atteindre l'objectif et les résultats escomptés. Sans ça, je crois que ça va poser problème. C'est ainsi que la Task Force a pensé qu'il faudrait désormais résoudre le problème avec une vision holistique, une approche systémique, parce que nous sommes effectivement dans un système. Hein. Quand vous avez parlé des embouteillages, vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui, enfin vous le savez certainement, mais je veux dire que ce n'est que la conséquence de plusieurs autres problèmes. La conséquence de plusieurs autres. Si on commence à analyser cette histoire d'embouteillage, moi je viens de faire 4 heures sur la route pour arriver ici.
Pénible, pas facile ici, il faut le faire tous
pénible,
les jours.
Pénible, c'est une perte de temps. Si vous ne trouvez pas comment vous occuper, eh bien la journée elle est carrément sacrifiée. Et ça a des impacts sur le plan économique.
Sur le plan économique,
ça a des impacts
sur
le plan mental, sur le plan et sur la santé des uns et des autres. Parce que vous êtes dans un embouteillage, dans une position donnée. difficile à, vous ne pouvez pas bouger pendant un certain temps, donc les kinésithérapeutes, ils peuvent expliquer tout cela, mais l'on n'a pas, il y a un prof, un collègue, un membre des experts de la task force qui a travaillé, qui a positionné des capteurs pour quantifier tout ce que les embouteillages produisent en termes de gaz. Et quand vous allez dans la suite, c'est la fatigue, c'est, bref, il y a beaucoup de problèmes, hein, que peut-être on n'identifie pas maintenant, où il y aura beaucoup de maladies émergentes à la longue. Il y aura beaucoup de maladies émergentes, ça c'est clair. Donc je disais que c'est un ensemble de plusieurs paramètres. Aujourd'hui, si ces embouteillages sont là, bon, c'est la conséquence de plusieurs autres qui n'ont pas suivi ceci, cela. Donc ça fait que finalement on est dans cette situation là. Et cet embouteillage là, ou par exemple autre chose qui intervient, eh bien ça impacte, ou ça, c'est un effet d'entraînement. Et voilà, donc nous avons tout intérêt à pouvoir revisiter notre approche. Et nous, la Task Force, nous avons cette mission-là de voir comment on peut apporter des solutions avec des innovations, mais tout en utilisant la recherche.
Nous allons partir au standard, professeur, parce que c'est une émission en téléphone ouvert. Il y a des auditeurs qui veulent également prendre part à ces rendez-vous. Donc, on va quitter le studio, partir au standard et retourner et continuer notre interview. Quel est l'impact de la dégradation de l'environnement sur la santé de la population congolaise? Nous abordons ces sujets dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Et si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706. C'est 9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiokapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiokapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site. Plusieurs propositions. Exprimez votre opinion.
Le premier auditeur, il prend la parole depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo. Monsieur Thomas, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, monsieur Tati. Et bonjour à madame l'invité ici, à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous vous écoutons.
Merci beaucoup de la parole nous accorder, monsieur Tati. En tout cas, la RDC, on sait que c'est un pays riche, que ce soit en biodiversité, mais également en ressources naturelles. Mais quelque part là, on voit que la dégradation de l'environnement, posée surtout par l'exploitation incontrôlée des ressources naturel, mais également de la déforestation, voire même la pollution des airs, là, c'est très compliqué. Et c'est là les répercussions.
Monsieur Thomas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller droit au but, poser directement une question, parce que l'invité a déjà posé le décor sur le problème. On va gagner le temps parce que vous n'êtes pas le seul.
Il y a beaucoup de répercussions sur la population. Mais qu'à cela ne tienne, je m'en vais directement aux questions, monsieur Tati.
Parfait.
Mais avant cela, j'aimerais parler des solutions également, avant de poser la question. C'est par rapport, par exemple, pour résoudre ce problème-là de la dégradation de l'environnement, c'est d'abord le renforcement de la loi. Parce que nous avons la loi de 2011, portant principes fondamentaux sur l'environnement. Nous avons la loi. Et le non-respect de ça aussi, ça pose un problème. Parce que la loi numéro 11/009, du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, tout ça c'est déjà prévu. Mais ce qu'on voit, c'est le non-respect de ça qui pose également un problème, un sérieux problème. Deuxièmement, c'est aussi l'éducation et la sensibilisation qui doit être, on doit bien éduquer la population sur les dangers de la dégradation de l'environnement, mais également sur les pratiques là durables. Vous avez des solutions là, j'ajouterai également la promotion, si vous voulez, monsieur Tati, des ressources renouvelables également. Si ça pourrait également réduire la tasse, soit de la dépendance là aux combustibles fossiles, mais également ça peut diminuer en tout cas la police de l'élection, on se fie, on se fie là par rapport à la promotion des ressources renouvelables.
Tes suggestions sont reçues maintenant, posez une question, s'il vous plaît, on va gagner le temps. Allez-y.
À Madame l'invitée, quels sont en tout cas les principaux facteurs qui contribuent à la dégradation de l'environnement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelles sont les stratégies qu'on pourra mettre en place pour faire face à la pollution, d'une part de l'eau, mais également de l'air? Quelles sont en tout cas les stratégies que Madame l'invitée pourra nous donner quant à ça? La troisième question, quelles sont les mesures qu'on pourra mettre également en place pour encourager les entreprises à adopter des pratiques écologiques? Parce que aussi, les entreprises aussi ont une part de responsabilité. Tout parce qu'une fois les répondre, c'est entre autres par le fait des entreprises qui utilisent des appareils, des machines et tout ça, ça a des conséquences. Je ne sais pas pour les entreprises, quelles sont en tout cas les mesures qu'on pourra leur donner pour les proposer, pour les encourager surtout à adopter des pratiques écologiques. Et je vais citer par ceci la dernière question. Comment, madame, ça c'est personnellement, je ne sais pas comment que vous avez maintenu une réponse par rapport à ça. Comment vous évaluez en tout cas l'efficacité des politiques environnementales au regard de la santé publique en RDC? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Comment vous évaluez ce que le gouvernement prévoit ou a mis en place là par rapport à la politique environnementale au regard surtout de la santé publique? C'est ça un peu, quelques préoccupations que j'avais à Madame l'invitée, monsieur Tati.
Merci beaucoup, monsieur Thomas, pour tes excellentes questions et excellente journée au niveau de la ville de Kisangani. Papi Mboyo, vous êtes à Manaka, dans la province de l'Équateur. On vous dit bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour, madame l'invitée, la professeure et ainsi que tous les auditeurs de la radio Capis.
On vous écoute.
Monsieur Tati, oui, bien que vous ne voulez pas que nous fassions un petit commentaire, mais je crois que ça, c'est vraiment notre sujet, parce que moi, je suis de l'île de Mbandaka ici.
Oui.
Je l'ai toujours dit.
Moi, je le dis. Ça nous permet de gagner le temps, parce que vous n'êtes pas les seuls à vouloir intervenir. Il faut penser aussi aux autres.
Ok. Quand c'est le monsieur.
Allez-y.
Monsieur Tati. Oui, je complimente madame l'invité. Et comme vous évitez les commentaires, on va aller tout droit dans les petits soucis. Et la première question serait de savoir pour gagner le temps. Que madame l'invité nous dise, parce qu'en lui écoutant dans son site, il nous parle tantôt de l'eau qui serait peut-être à la base de la dégradation, il parle aussi de l'air. Moi, j'aurais des questions là-dessus. Je peux lui demander, madame l'invité, pour cette charge, nous donnons beaucoup de considérations, pouvez-vous nous expliquer à quel niveau l'eau de la pluie peut avoir des conséquences dans la santé humaine? À quel niveau? Comment est-ce que vous nous expliquez cela? Ça c'est de 1 et de 2. À quel niveau l'air peut aussi avoir des impacts négatifs sur la santé humaine? Et 3,
est-ce que vous pouvez reformuler la deuxième question? Je n'ai pas bien entendu, il s'est posé un problème de liaison téléphonique.
Ouais, je vais le reformuler, ou peut-être je vais le dire autrement, je dis l'air. L'air, madame dans son discours, dans son mode de circonstance, dans son introduction, il a parlé de l'air aussi.
Exactement.
Qui serait à la base des... Ouais. À quel niveau il peut nous expliquer? Et de 3, je sais que la deuxième question est prise. Allô?
Nous vous recevons, allez-y, on vous écoute.
Allons, c'est parti.
On vous écoute, allez-y.
J'ai dit, la deuxième question est comprise.
Oui. À quel niveau qu'elle vous explique comment est-ce que la qualité de l'air peut être dégradée?
Voilà.
D'accord. La santé humaine. Troisième question.
Troisième question. Madame le professeur, considérez-vous que la coupe de bois peut avoir des impacts négatifs sur la santé humaine, à quel niveau? Si vous pouvez aussi éclairer la lanterne. Et pour citer, c'est à dire, je dirais, quelle contribution sur le plan genre au développement? Sur le plan genre et développement, le compartiment économique en mettant en place un système de pérennisation des activités. Je ne sais pas si la question est comprise ou je peux le répondre.
Reformule-le. Reformule la question de.
Oui, je peux dire.
Mmh. La toute dernière.
Oui. Je dis, à quel niveau la contribution du genre peut intervenir pour la dégradation et en mettant en place un système de pérennisation des activités.
Ah, donc ça sous-entend l'implication de l'homme et la femme dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'eau, de l'air et autres.
J'ai dit la contribution sur le plan genre.
Merci beaucoup, c'est compris. Excellente journée, Monsieur Papimboyo. Vous avez pris la parole depuis la ville de Mbandaka. Professeur, comment répondez-vous à nos deux premiers intervenants, Thomas et Platini?
Merci beaucoup. Merci aux deux auditeurs qui m'ont posé plusieurs questions. Merci à Monsieur Thomas, à partir de la Tchoupo.
Excusez-moi, il y a qu'on épuise les auditeurs et puis on retourne. Il y a un auditeur qui vient d'entrer au standard, donc sur les canaux, on lui donne la parole et puis on revient ici. Blaise Saïdi, bonjour. Monsieur Blaise, la liaison s'est interrompue. On vous donne la parole.
Oui, merci beaucoup pour la parole, pour les questions. Je pense à Monsieur Thomas qui a commencé d'abord par demander je peux dire quelque chose sur les principaux facteurs, si je ne me trompe.
Il a commencé par la réglementation. La réglementation existe, mais son application pose problème sur le terrain.
Ça, c'est une chose. J'ai commencé par dire qu'il y avait l'aspect lié aux normes et la réglementation. Qui faisait défaut. On n'a pas de normes, donc j'ai évoqué cet aspect-là. Il a parlé de la loi de 2011. Je voudrais porter un correctif en disant que cette loi a été complétée et modifiée par l'ordonnance loi de 2023, du 23 mars 2023 dernier, qui inclut d'autres aspects liés à la qualité de l'air, de l'eau et du sol, dans la mesure où il y a les aspects liés au changement climatique. Donc elle vient quelque part apporter aussi des éclaircissements sur les aspects de prévention et effectivement le non-respect de ces lois. Ce que je peux dire en matière de la mise en application de ces lois, les mesures d'application ne suivent pas encore. Il y a eu certaines, peut-être que ça se trouve dans les pipelines quelque part, mais cette loi date de très longtemps. Il n'y a pas que cette loi-là. Il y a également la loi relative à l'eau qui a été aussi promulguée en 2015. Cette loi également souffre encore de quelques mesures d'application. Toutes ces dispositions légales permettent en fait de protéger notre environnement et de prendre en compte le fait que plusieurs facteurs peuvent influencer effectivement la dégradation de cet environnement, pour que je puisse répondre à cet aspect. Et quels sont ces facteurs qui font que l'environnement se dégrade avec le temps? Ben, vous venez vous-même de soulever le premier élément, c'est la faiblesse institutionnelle liée à la mise en application des lois. Une loi qui n'a pas de mesures d'application, ben c'est comme si elle n'existait pas. Il y a ça, et puis la connaissance aussi des populations par rapport à ça. Combien savent que cette loi dit ceci, dit cela? Il y a un besoin de pouvoir éduquer la
vulgariser les lois auprès de la population,
vulgariser ces lois. Je l'ai toujours dit, on parle souvent de ces deux lois-là, mais on oublie que la Constitution, qui est au-dessus de toutes les lois, évoque déjà, garantit l'environnement sain à tout Congolais à travers l'article 53. Et c'est dans l'article 47 que la même constitution garantit le droit à la santé. Donc c'est des préalables, des choses que tout Congolais devra connaître. La connaissance des droits fondamentaux, le droit à l'information, le droit à la santé, le droit à l'environnement, mais aussi l'article 53 de la constitution voudrait que le Congolais, non seulement il a droit à la santé, mais il a le droit, l'obligation de les défendre. Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour défendre cet environnement? Donc, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, les facteurs liés au secteur éducationnel, les facteurs institutionnels, parce que même quand vous regardez la configuration de tout ceci, il y a le gros problème lié à la coordination. La coordination par rapport à tout ça pose un sérieux problème, ce qui fait que je vais chuter en disons pour en ce qui concerne les facteurs là, en disant qu'à part ça, il y a la non prise en compte de tout ce que nous scientifiques faisons. La recherche n'est pas prise en compte dans ça, l'absence de données. Si nous voulons trouver des solutions, il faut que nous ayons des bases de données. Bah, dans beaucoup des sphères mondiales, vous trouverez que vous trouverez que le scientifique a une place considérable. Je suivis dernièrement l'intervention d'un rapport de recherche et des colloques scientifiques sur la question de la pollution plastique au Sénat, au niveau je pense au niveau de la France, si je ne me trompe pas. Et le scientifique apporte des informations aux politiques. Le scientifique apporte ou éclaire la lanterne et en apportant...
Sur les questions de société.
Oui, les questions de société, les évidences. Solutions. Mais aussi comment on peut arriver à
résoudre ces problèmes.
Donc, si on ne met pas ça à contribution, ça risque d'être un problème.
Ben, c'est ce qui est le cas pour l'instant pour le pays.
Voilà, les stratégies...
D'une manière générale.
Les stratégies pour résoudre... Ces problèmes, les stratégies constituent d'abord à vouloir connaître les sources, les origines de ces problèmes. Et c'est que nous avons appelé les Nexus Santé, de la gestion du Nexus Santé Environnement. Mmh. Quand vous avez la question de la santé, la santé vient finalement en aval de plusieurs problèmes. Quand vous faites un accident, c'est le problème de santé, n'est-ce pas? Mmh. C'est la santé qui vous accueille. Vous avez des soucis, votre tête ne fonctionne pas bien parce que vous n'avez pas d'argent, c'est la santé qui vous accueille. Vous avez ceci. Bref, on se retrouve lorsque l'environnement est pollué, c'est la santé encore une fois qui en pâtit.
Et il voulait savoir la task force, quelle stratégie vous allez mettre en place pour améliorer ou rendre viable la vie ici en RDC.
Justement, nous avons proposé un certain nombre de schémas critiques, je crois l'avoir signaler, des schémas critiques qui voudraient qu'on identifie d'abord le problème tel qu'il est, selon le lieu, parce qu'on ne peut pas avoir un schéma pour tous les problèmes qui n'ont pas les mêmes sources. Nous avons identifié les exposomes et puis nous regardons en ce qui concerne les pratiques, les solutions faisables, les solutions durable, mais aussi prouvé, qui existe. Il suffit qu'on y mette les moyens. Cette stratégie voudrait donc, un, que nous puissions avoir des observatoires. Les observatoires de la qualité de l'environnement en général.
À travers la République.
Oui. Les observatoires de l'eau, les observatoires de l'air, les observatoires des sols. Parce que nous parlons de l'air et de l'eau, mais le sol aussi, il subit des dégradations incroyables avec les pesticides utilisés par les maraîchers qui, pour la plupart, ne sont, un manque de connaissances sur la bonne utilisation de ces produits.
Et l'enfouissement des déchets, il y a beaucoup de facteurs.
Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi tous les déchets abandonnés sur le sol, tous les déchets qui sont... ça et là, qui ont des impacts finalement sur la santé, la dégradation des sols. Voici d'autres éléments, mais aussi pour regarder en termes de réponse pour que désormais que le Congolais lui-même soit le gardien de son propre temple, c'est-à-dire de son environnement, à travers une éducation au changement de comportement, une éducation à la préservation du seul patrimoine que nous avons, notre sol. Parce que si nous avons pollué l'eau, nous avons pollué l'air et le sol, et l'air et l'eau, que nous reste-t-il dans l'environnement? Le changement climatique, on l'accuse. Il y a des inondations qui arrivent, qui viennent trouver déjà des problèmes sur le terrain avec tout ce que nous avons. Je crois qu'il faut revisiter notre façon de voir les choses. Et nous voulons changer cette vision à travers une approche holistique. Nous voulons, s'il s'agit de la question liée aux inondations, nous nous mettons sur la table qui sont concernés, qui sont les acteurs, tous les acteurs concernés par ce problème, le rôle de chacun, quelle est la stratégie adoptée par X de manière à avoir une certaine coordination. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons avancer et être efficaces.
Permettez-moi, on va retourner au standard avant de continuer parce que ils sont là, il y a 5 minutes, ils attendent. Donc,
mais j'ai pas fini d'y répondre.
Oui, nous allons retourner ici au studio pour continuer l'interview.
D'accord.
Voilà. Quel impact la dégradation de l'environnement sur la santé de la population congolaise? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Et si ce thème vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Monsieur Blaise Saïdi, bonjour. Je signale que vous prenez la parole depuis la ville de Kisangani. Monsieur Blaise n'est pas là. Maître Omar, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour Madame le professeur.
Bonjour.
Hello.
Nous vous écoutons, allez-y, bonjour.
Merci, monsieur Tatu, du verbe que vous m'adjugez. Je crois que vous l'avez toujours remarqué. Je suis un passionné de l'environnement.
Si, si.
Si Dieu fait grâce, ma thèse portera sur le droit de l'environnement. Super. Parce que l'environnement, la profession ne me contredira pas, est à la fois un cadre de vie et une source de revenus. Lorsqu'il est pollué, la vie humaine n'est plus possible. Voilà pourquoi la loi fondamentale, la Constitution, à l'article 47, promeut le droit à la santé. Mm. Et 53 détermine que les droits d'environnement sain garantis à tout Congolais. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux Congolais, ce n'est pas une faveur, c'est un droit reconnu et par la loi et par nos textes internationaux. Alors, cela étant, monsieur Tati, je m'en vais à ma première question avant de proposer mes stratégies. Madame la professeure, certains scientifiques rencontrent que le fait d'implanter les antennes cellulaires auprès des habitations, a un impact environnemental très, très, très significatif. Il semble que ça peut rendre des hommes stériles dans 5 ans ou 10 ans. Lorsqu'on parcourt des quartiers à Kinshasa, on voit des antennes, des cellulaires, même dans des parcelles.
Oui.
Oui. Est-ce que vous affirmez cela, madame le professeur? Okay. Est-ce un danger pour l'environnement? Deuxième question. Je suis un passionné de l'environnement. J'ai lu un ouvrage où un auteur dit les gaz dégagés par certaines voitures. On utilise ici au Congo, envolue l'air. Est-ce que le professeur peut confirmer cela? Troisième question, madame la professeure. On pense de la pollution sonore. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un seuil élevé au-delà du seuil prévu par rapport aux décibels, on dit que l'air est aussi pollué. Est-ce que le son produit par les bars et certaines églises pollue également l'environnement? Alors, j'ai fini, monsieur Tati, avec mes stratégies parce que nous voulons que l'environnement soit sain.
Oui.
Alors, moi, je propose premièrement l'application sérieuse de la loi. La loi n'est pas ce que disent les textes, mais ce qu'en font les acteurs. On a la Constitution, on a les traités internationaux, la Convention de Maputo, les traités de Tokyo, la Déclaration des droits de la Charte africaine. On a la loi de 2011, l'ordonnance loi de 2023. On a les codes miniers, on a les codes forestiers, plusieurs textes. Ils prévoient des mécanismes pour protéger des sanctions. Cela n'est pas appliqué. Le tout commence par la sanction. J'ai été quelque part, monsieur Tati. Je ne citerai pas le nom du pays pour raison de publicité. Je n'ai vu aucun papier en cours de route. J'ai posé la question au chauffeur qui me conduisait, qui me dit, le fait de jeter un papier sur terre peut vous coûter une amende de $400. Et lorsque vous jetez, même s'il n'y a personne, il y a des caméras qui vous filment. Si vous êtes un étranger, lorsque vous sortez à l'aéroport, l'immigration vous fait payer. La certitude de la sanction fait que les gens respectent. Dans chaque coin populaire, il y a des agents de l'État qui sont là. Lorsque vous mangez, que ça tombe, il vient ramasser, il met dans la poubelle. Il y a des poubelles partout. Donc la sanction est la première mesure, au-delà de nos français, de nos thèses, de nos discours, qu'on sanctionne. À l'époque de Mobutu, M. Tati, il y avait une police environnementale,
oui.
Souvenez-vous,
oui.
Qui passait dans chaque parcelle. Comment vous, si votre poubelle est
pleine, il y a même des véhicules de désinsectisation qui faisaient la ronde de quartier.
Oui, ça se faisait. La ronde de quartier.
Vous désinfectez les caniveaux.
Deuxième stratégie.
Oui.
L'éducation environnementale. Moi, c'est en faisant des recherches que j'ai découvert qu'un sachet peut faire 200 ans sur le sol. Un papier mouchoir peut faire 100 ans sur le sol. Et lorsque le sol est pollué, comment on va planter? Les gens ne sont pas éduqués environnementalement. Et ce travail doit être fait à tous les niveaux, au niveau de la famille. Apprendre aux gens comment les gérer les déchets. Au niveau des églises, on n'est pas seulement là pour dire aux gens, ok, des poteaux, amen, zoa visa, amen. Non. L'Église doit aussi, au-delà de la prédication céleste, apprendre aux gens les vertus. C'est ça aussi l'Église. Oui. Ça signifie Ecclesia, les gens qui sont en dehors de la cité pour apporter des solutions. Le média, merci à la radio Capi,
nous
à
faisons, votre équipe de Capi. On fait souvent l'exercice régulièrement.
Chaque jour, on fait défiler les discours du chef de l'État. On peut créer des sketchs à Lingala dans toutes les langues pour promouvoir l'environnement. L'éducation est fondamentale. Et enfin, il faut sensibiliser. La loi est là. Il y a plus de 8 textes au niveau interne. Des décrets, des ordonnances, des arrêtés, des traités internationaux. Si on ne le vulgarise pas, comment la population va connaître? L'article 70 de la Constitution dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mais cette loi, pour la connaître, il faut la vulgariser.
Tout à fait.
Il faut la faire connaître.
Oui.
Et c'est le travail de la famille, des médias, des églises, des partis politiques. Ils ne sont pas seulement pour chanter Fatih, Béton, Fayoulou, Aigle, non. Les partis doivent aussi éduquer civiquement leurs militants.
Vous avez tellement raison.
C'est ça aussi le rôle d'un parti politique. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Tati. Merci à Madame la professeure.
Amen.
Et que vive l'environnement sain au Congo.
Merci à vous aussi. Et merci pour ta question et ton interpellation. Hein. Donc, ça nous va droit au cœur. Excellente journée. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Monsieur Paty, vous êtes à Bandouville. Bonjour.
Bonjour, cher Tati. Bonjour à notre invité qui est au plateau avec vous.
On vous donne la parole.
Vraiment, c'est pitoyable. Hein. Si l'homme continue à se comporter de cette manière incivique, surtout l'homme congolais, je pense que même si un jour il partait au ciel, il lui amènera du désordre. C'est le seul endroit où Dieu avait placé l'homme pour qu'il vive d'abord, que l'homme montre combien il aime même Dieu. C'est ici, c'est la terre. Mais la manière dont il se comporte maintenant, même Dieu est étonné. Ok,
c'est vrai,
je m'en vais
ça.
Vite à mes petites interrogations.
Allez-y rapidement.
Je présume que notre invité a eu de la chance de vivre dans des pays étrangers, que je n'ai pas plaisir entre guillemets les pays des hommes. Comment dans ces pays-là, ils gèrent les déchets ménagers industriels? Comment ces pays-là gèrent-ils? Parce que nous, chez nous ici, on peut nous parler qu'on ait des poubelles, que chaque parcelle ait sa poubelle. Maintenant, ces déchets-là, où est-ce qu'on ira jeter? Et dans ces pays-là, comment font-ils?
Ah, les circuits, de traitement de déchets. Sous l'eau précieuse. D'accord.
Sous l'eau précieuse. Et ma deuxième question. Nous, comme moi là, je suis un débrouillard, bon, je vends tout ça, tout ça. Mais nous voyons chaque fois, il y a un service d'environnement qui, ils viennent comme quoi, payer les taxes sur l'environnement. Nous payons l'argent.
Oui.
Mais au marché où nous sommes, il y a des saletés dans une quantité que j'appellerais même industrielle. Il y a des déchets, des cartons, des sachets, il y a des histoires, des bocales, des caracasses, des radios. Mais nous payons les taxes sur l'environnement. Cet argent-là va où? Et ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la population lambda ici, devant nos autorités de la ville ici, et ils viennent, ils récoltent l'argent pour l'environnement, nous payons. Mais nous ne voyons pas
les retombées de l'argent prélevé.
Nous ne voyons pas de... Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de maladie? Nous vivons avec des mouches, parce qu'il y a des saletés là, il y a des sachets, tout ça, et en fin de compte, nous tombons malades. Qu'est-ce que nous pouvons faire auprès de ces autorités de nos villes qui nous gèrent? Après avoir payé l'argent, moi ici, je vous parle, j'ai mes taxes déjà payées pour cette année ici au marché où je vends. Mais ça continue à être... Il y a des mouches, il y a des odeurs, l'air est pollué.
Et j'imagine, il n'y a peut-être pas de toilettes dans ces marchés. Ou si elle existe, c'est dans un état pité.
Si vous osez seulement mettre votre pied, vous tomberez malade. Quand vous ouvrez seulement les portes, il y a une caravane de mouches. Donc vous ne pouvez pas imaginer. Au marché, nous payons, même à la mairie, seulement de mettre votre nez, vous tomberez malade. Je me demande, qu'est-ce que nous pouvons, comment pouvons-nous nous y prendre? Voilà mes préoccupations, je vous remercie.
Merci beaucoup et bonne journée à Bandouville. En 10 minutes, professeur, parce que là, le temps coule vite. Ramasser les aspects importants, on ne sait pas, aussi épuiser les sujets en une heure du temps, donc ça, on pourra reprogrammer notre rendez-vous. Allez-y.
Oui, je pense. Merci beaucoup à tous. Hein. Je reviens à Papy. Merci en tout cas à tous les auditeurs. Pour leur
questions, suggestions.
Je vais très vite, je vais essayer de ramasser le tout. Pour parler de tout ce qui est pollution, évidemment, c'est dû à l'inefficacité peut-être des politiques, pas peut-être, mais c'est la mise en œuvre des plans, des politiques qui ne cadrent peut-être pas avec le contexte actuel des choses. Il faut réactualiser, revisiter.
Il y a des questions plus pratiques telles que celle de mettre au mar l'installation des antennes dans des parcelles. Est-ce que ça a des conséquences sur la santé et sur l'environnement?
C'est comme l'air, la coupe de bois, effectivement. Tout ça a des conséquences sur... je commence par l'air, santé humaine. L'air, lorsqu'il est pollué, eh bien, vous constaterez... Bon, il y a des recherches, des études qui ont montré que ça peut avoir des impacts sur votre système respiratoire. Vous avez des maladies pulmonaires. Ça, c'est vraiment ça. La preuve, ce que dans les zones minières, par exemple, il y a eu des enfants qui sont morts récemment. Et les collègues de Lubumbashi, le groupe du professeur Banza, qui est écotoxicologue, a montré que cette maladie qui est, en fait, ces décès-là, dus aux écoulements des nez, des enfants qui ont eu des sortes d'hémorragies, c'était des gaz qui provenaient des mines. Les enfants ont respiré, finalement ils ont succombé. Ce n'était pas un agent pathogène d'origine, je peux dire,
bactérienne ou
bactérienne ou virale, non. C'était tout simplement de l'air. Donc l'air peut avoir des incidences sur la santé, ça peut générer des problèmes d'asthme et tout le reste. Donc je crois que les spécialistes dans cette question pourront vous en donner davantage d'informations. Les radiations, il y a deux catégories. Les radiations ionisantes et non ionisantes, effectivement, dans les zones où on implante tout ce qui est pylône, radar, toutes ces antennes auxquelles monsieur maître Omar a fait allusion. Et donc effectivement, et ça dépend des ondes. Mais que pensez-vous, quelle est la responsabilité, par exemple, du citoyen lui-même qui accepte de vivre, s'il est informé, il accepte, parce qu'on va le payer et il imagine ça. Moi, j'ai vu un jeune dans mon quartier qui a effectivement développé des problèmes. On a finalement compris que c'était l'antenne qui venait d'être posée chez lui. Il y en a qui peuvent y réagir, d'autres pas. Donc, je crois que la spécialiste de cette question, c'est professeur Odette.
On va l'inviter.
C'est elle qui est spécialiste de cette question, qui est prise en compte aussi au niveau de la TFSE, la Task Force. La pollution sonore, c'est un autre mal, peut-être qu'on n'entend pas. Allez voir les gens qui vivent à côté des endroits comme les aéroports. Nous avons mené des études sur les meuniers, ceux qui font moudre la farine.
Le foufou.
Ces gens-là ont des problèmes sérieux. Ils vous parlent comme s'ils criaient. Et puis là, il y en a qui ont développé beaucoup de problèmes, d'autres sont décédés. Mais comme on ne fait pas, on ne fait pas d'autopsie, il est difficile que l'on puisse identifier les sources. Effectivement, c'est des problèmes réels. Même les baffles que l'on met dans les églises, il y a un minimum requis,
des décibels,
acceptables. Et donc, on pense qu'il suffit de chanter, à la longue, l'exposition aussi est un facteur qui fait que on peut tomber malade. Lorsqu'on est exposé chaque jour, eh bien, ça a un impact sur les tympans et à un moment donné, vous atteignez des niveaux inacceptables, eh bien, ça aura des répercussions sur votre santé. Les gaz d'échappement, idem. Au-delà du CO2 que l'on peut identifier, il y a d'autres gaz qui sont nocifs. Vous pouvez arriver à un endroit où vous trouvez un véhicule, un vieux véhicule surtout, les gaz d'échappement vous empêchent de respirer. Ça picote un peu dans les yeux et donc effectivement tous ces gaz-là pourront avoir des problèmes à la longue. Et je suis tout à fait d'accord, je vais me référer à l'encyclique du pape Laudato Si, qui a recommandé à ce que tout le monde puisse repenser à cette terre que nous avons, puisse vouloir réfléchir, parce que nous sommes en train de polluer, nous jetons n'importe quoi, mais comment faire? Il nous faut absolument penser à cette terre qui est la nôtre, la seule qui nous a été donnée.
Patti Maïmba a dit on prélève les taxes, la taxe sur l'environnement,
et que faire en cas de maladie? Il a parlé des infrastructures d'assainissement, des toilettes impropres, mais il faut dire qu'aussi dans tous ces genres de, dans toute cette situation, les responsabilités sont également partagées. Vous pouvez aussi installer des bonnes infrastructures, les gens ne respecteront pas. Il y a des endroits où les toilettes sont bien installées, mais quand il y a quelqu'un qui arrive, un incivique, il vient, il fait n'importe quoi. Donc là, ce n'est pas l'État, c'est l'individu. Donc il faut travailler et sur l'individu en termes d'éducation. Ça commence à la base. C'est ainsi que nous, au niveau de la task force, nous pensons qu'il faut revoir à ce moment-là comment programmer l'éducation pour le changement des comportements en commençant par le plus bas niveau, parce que tout se joue à l'âge de 7 ans pour un enfant. Et que faire en cas de maladie, parce que y a des taxes qui sont payées. Moi, je crois qu'il faut revendiquer. D'abord, il faut connaître ses lois. Quand vous revendiquez de manière polie, de manière respectueuse, vous revendiquez, vous les connaissez, vous avez vos droits, eh bien, je crois qu'il ne vous reste qu'à les revendiquer, à pouvoir dire, voilà, j'ai droit à la santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que tout le monde se mette à l'esprit que les lois sont là, certes, mais nous aussi, nous devons les respecter. Il faut que les sanctions suivent. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Maître Omar, parce que si on ne sanctionne pas, c'est comme dans une famille, hein, quand vous avez des enfants irrespectueux, vous avez des enfants qui ne respectent pas les règlements de la maison, bien, papa se lève, hein, il dit, ça ne va pas, maman vient, elle tape dessus. C'est pour essayer de redresser. Je vois pas le mal. Aujourd'hui, c'est quand même une situation assez difficile dans la mesure où, lorsqu'on veut appliquer la loi, ici, je vois le cas de Kinshasa. Si on est dans ces embouteillages, par exemple, vous verrez que certains veulent, ne veulent pas qu'on arrange la situation. Donc, ils se sentent, vraiment, on est dans une situation, il faut intervenir à tous les niveaux et revisiter certainement notre manière de voir les choses, notre vision, nous impliquer aussi personnellement en aidant les politiques, hein, à pouvoir changer, parce que nous
considérons, on est coincé par les temps, professeur, ce n'est qu'une partie remise, hein, professeur Céline, ainsi que vous laissez moi, nous rappelons que vous êtes coordonnatrice de la task force sur la santé et l'environnement. Merci d'avoir été avec nous, hein, espérons que ce n'est pas la dernière fois. Et chers auditeurs, auditrices, c'est par ici que prend fin le magazine Okapi Service, que j'ai eu l'immense plaisir de présenter et coordonner sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, Naomi Mouto qui a réalisé ses rendez-vous, Pierre Diassino s'est occupé de la prise des sons et Jonathan Chimanga était à l'édition multimédia. Les rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous du magazine Okapi Service. Au revoir.